enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Alors nous allons ce soir pour notre message final du jeûne et prière en attendant le dimanche matin et les jeûnes demain soir. Regardez, voir, il y a plusieurs chemins. Mais ce soir, le titre est sur la route de notre miracle. Que faut-il faire? Il y a le chemin du désert que les enfants d'Israël ont pris, ce chemin-là, pour les conduire à Canaan. Il y avait les mêmes difficultés. Dieu avait dit qu'il n'était pas bon qu'ils prennent le chemin des Philistins. Parce qu'ils verraient la guerre sur le chemin des Philistins. Alors, il les a fait passer par le chemin du désert. Et malgré ce chemin du désert, la plupart n'ont pas pu rentrer en Canaan. Parce que sur le chemin du désert, donc du désert jusqu'à Canaan, il y a eu plusieurs obstacles qui ont empêché les gens d'entrer dans leur terre promise. Nous avons vu aussi le dimanche matin le chemin d'Emmaüs. Et nous avons vu que sur le chemin d'Emmaüs, il y a aussi des obstacles, le non-renouvellement de l'intelligence qui fait que Christ se présente à vous, vous n'arrivez pas à le reconnaître jusqu'à ce qu'il ouvre vos yeux. Il y a plusieurs chemins. Le chemin de Jéricho. Sur le chemin de Jéricho, il y avait donc tous ceux qui étaient là, c'est-à-dire les Bartimées, les autres aveugles qui étaient là, qui ne voyaient pas. Parce que Jéricho, c'est la ville des palmiers, c'est la ville maudite, et sur le chemin de Jéricho, vous avez plein d'obstacles qui vous empêchent d'entrer dans votre héritage. Donc il y a plusieurs chemins spirituels. Et ce soir, nous avons dit, sur la route de votre miracle, qu'allez-vous rencontrer? Quels sont les obstacles que nous devons vaincre pour arriver donc à bout et entrer dans notre héritage, dans notre miracle spirituel, miracle financier, miracle physique, ou tout autre, ou miracle familial. Alors c'est pourquoi je voudrais que vous ouvrez la Bible avec moi dans l'évangile donc de Marc, l'évangile de Marc, et au chapitre 5. Vous connaissez ce passage, mais nous allons le méditer ensemble. Marc 5, et lisons en particulier les versets 22 et 23. Même 21 à 23. Marc 5, donc 21, 23. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un chef de la synagogue, nommé Jaïrus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens. » Impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Jésus s'en alla. Jésus donc prit la route de la maison de Jaïrus et la route du miracle. Mais nous allons voir que cette route du miracle est parsemée par un certain nombre d'obstacles qu'il faut lever pour arriver donc à la maison de Jaïrus. Et Jaïrus signifie simplement celui qui éclaire. Le nom Jaïrus signifie celui qui éclaire. Il y a parfois des lumières que nous avons en nous qui ne sont pas capables d'aller au-delà de nos problèmes. Vous savez, la lumière d'une allumette ne peut pas éclairer toute une maison. Si votre maison est dans l'obscurité, le brin d'allumette peut vous permettre de retrouver votre clé qui est tombée à vos pieds. Mais le brin d'allumette ne peut pas éclairer toute votre maison. Jaïrus était un homme, un chef de la synagogue. Et son nom qui signifie « celui qui éclaire ». Maintenant, Jaïrus était confronté à une situation familiale où sa propre lumière, la lumière qu'il était incapable d'éclairer sa propre famille. Et il se trouve que souvent en tant que chrétien, malgré le fait que nous soyons la lumière, mais il y a des choses qui nous empêchent d'éclairer ceux qui sont autour de nous. Alors, il faut la grande lumière qui va venir, qu'on appelle Jésus-Christ, qui est la grande lumière, qui va venir insuffler un niveau à notre lumière pour que nous puissions aller de l'avant. Donc, qui va nous permettre d'aller de l'avant. Vous montez là et vous baissez dans la chambre, dans la salle. Donc, qui va nous empêcher de progresser, d'aller de l'avant. Alors, bien-aimés frères et sœurs, regardons ce que Dieu va nous enseigner ce soir. Parce que nous allons partir et nous allons avancer avec le Seigneur pas à pas. Mais comment Jaïrus est-il arrivé à Jésus? Première étape pour que nous puissions emprunter la route de notre miracle. Première chose qu'il faut faire, il faut changer d'opinion concernant Jésus-Christ. Si vous gardez la fausse opinion, si vous gardez l'opinion déformée des gens, si vous gardez l'opinion des gens que les gens ont sur Jésus-Christ, c'est très rare que vous bénéficiez de ce qu'il veut faire dans votre vie. Et Jaïrus est parmi ces gens-là. Vous savez que tous les chefs de synagogue de tout Israël, ils avaient décidé que quiconque reconnaîtrait Jésus-Christ comme le Messie devait être exclu des synagogues, y compris notre cher frère, notre cher ami Jaïrus. Alors, ils ont décidé de mettre Jésus-Christ de côté. Si vous voulez, ce passage, vous pouvez le trouver dans Jean 7, versets 46 à 49. Ils ont décidé, ils ont fait une réunion d'excommunier quiconque parmi les Juifs fréquentant une synagogue qui reconnaîtrait que Jésus est le Messie, que Jésus est le Fils de Dieu, devrait être éjecté donc des synagogues. Donc Jaïrus était partie prenante, n'oubliez pas, de cette catégorie de chefs de synagogue qui ont décidé d'exclure Jésus. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, frères et sœurs, il est dit ici qu'un jour Jésus a posé la question à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Et pour voir l'opinion des gens sur lui. Et les disciples ont répondu, « Les uns disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es l'un des prophètes. » Donc voilà l'opinion des gens et sur Jésus-Christ. Lorsque nous avons vu les disciples d'Emmaüs le dimanche matin, les disciples d'Emmaüs qui ont vécu avec Jésus 3 ans et demi, qui ont mangé avec lui, qui ont vu les grands miracles, quand Jésus a été crucifié et qu'ils s'en retournaient dans leur village Emmaüs et que Jésus les a rejoints sous une forme donc qu'ils n'ont pas pu reconnaître, ils ont dit, ne sais-tu pas, es-tu le seul à ne pas savoir que Jésus-Christ est grand prophète? Donc, voyez l'opinion qu'il y a. Et c'est cette opinion. Quelle est l'opinion aujourd'hui? Si vous avez un Jésus qui est mort, si vous avez un Jésus impuissant, si vous avez un Jésus simple prophète, si vous avez un Jésus qui est un des prophètes, alors vous avez des problèmes sur la route de votre miracle. Il faut d'abord, première étape, que votre opinion change entièrement sur la présence de Jésus. Vous savez, même l'homme qui est né aveugle, quand on lui a posé la question, qui est ce Jésus qui t'a guéri? C'est par étapes qu'il est arrivé à savoir que Jésus est le Fils de Dieu. D'abord, il a dit, un homme qu'on appelle Jésus. Après, il a dit, c'est un prophète. À la fin, quand il a rencontré Jésus, il a dit, c'est le Fils de Dieu. Et c'est en ce moment-là que cet homme-là a eu la plénitude, la paix dans son cœur. Bien-aimés frères, ce que je vous dis ce soir, vous pouvez penser que réellement vous croyez que Jésus est ce que vous croyez, ce que la Bible dit. C'est devant les problèmes que Jésus vous pose la question. Crois-tu, Marthe et Marie ont été les logeurs de Jésus-Christ, donc à Béthanie. Ils ont appris, Marie a appris à s'asseoir au pied de Jésus-Christ, à écouter les paroles de Jésus, à l'adorer. Marthe a tout fait pour servir Jésus-Christ. Mais dans leur difficulté, quand leur frère Lazare était malade et ensuite il est mort, elles ont été incapables de reconnaître Jésus par rapport à leur situation. Elles l'ont appelé maître. Elles l'appelaient maître. Frère, ce qui est important, ce n'est pas quand tout va bien. Ce n'est pas de répéter et mentalement, mécaniquement, ce que la Bible dit. c'est devant votre situation, devant votre problème, quelle est votre opinion réelle sur Jésus-Christ? Quand Jésus est arrivé à Béthanie, les sœurs sont venues à sa rencontre. D'abord Marthe. Jésus lui a dit, hey Marthe, ta sœur ressuscitera. Et d'abord elle a dit à Jésus qu'il est venu en retard. Quelle était l'opinion de Marthe sur Jésus? Jésus pouvait guérir les gens tant qu'ils sont vivants. Ou bien si le cadavre est encore frais, il peut les ressusciter. Mais pas un cadavre de 4 jours. Donc quand il a dit à Jésus, il a dit, Jésus, tu es venu en retard. Vous voyez, même les meilleurs disciples de Jésus ont des problèmes de le reconnaître tel qu'il dit qu'il est. Et c'est ça que nous avons comme problème. C'est-à-dire, nous croyons qu'il est sauveur. Nous croyons qu'il est Seigneur. Mais quand nous avons un problème, Jésus nous dit, est-ce que tu crois que je peux faire ça? Nous commençons à conjuguer Jésus, soit au passé ou au futur, mais jamais au présent. Ils ont dit d'abord, si tu avais été ici, il y a 4 jours, notre frère serait vivant. Ça veut dire un Jésus du passé. Ou bien encore, à la résurrection des morts, il ressuscitera. Un Jésus du futur. Mais combien de gens ont un Jésus présent dans leur situation? Combien de gens ont un Jésus présent? Un Jésus dans la plénitude. Le Jésus qui fait encore des miracles, qui guérit des malades, qui libère. Ils ont toujours un argument. Et c'est pourquoi la première étape sur la route de votre miracle, la première étape, le premier obstacle qu'il faut lever, c'est votre opinion, votre pensée sur Jésus-Christ. Alors donc, vous voyez tous ces gens-là, dans la situation calme, tout le monde l'appelle Seigneur, mais dans la difficulté, personne ne le reconnaît. Il a fallu que Jésus regarde Marthe. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois ce que je suis? Jésus lui dit, mais Marthe, il n'y a pas un jour de la résurrection, simplement. La résurrection n'est pas un événement. Seulement, la résurrection n'est pas une chose qui doit arriver. La résurrection, c'est moi. Sans moi, il n'y a pas de résurrection. Sans moi, il n'y a pas de jour de résurrection, frères et sœurs. Tu parles tous les jours de la résurrection des morts, mais tu négliges celui qui est la résurrection. Alors, tu es en train de penser à une fête. Il n'y a pas de fête. Jésus est la résurrection. S'il est la résurrection, vaut mieux aujourd'hui te coller à lui. Aujourd'hui, quand tu es sur la terre, vaut mieux qu'il soit ta vie. N'attends pas un jour. Ne vis pas comme n'importe qui. Ne fais pas, et puis t'attends à un jour de résurrection. Ça, c'est la mentalité religieuse qui trompe les gens. Marthe réfléchissait ainsi. Mais Jésus dit, non, Marthe, je suis la résurrection. Je suis la vie. Il n'y a pas de résurrection en dehors de moi. Il n'y a point de vie en dehors de moi. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ce que nous devons comprendre. La résurrection est une personne. Alors, c'est en ce moment que Jésus a dit à Lazare de sortir du tombeau. Pour montrer qu'il est la résurrection, qu'il n'y a pas un jour de résurrection, que la résurrection sans, le jour de résurrection sans celui qui est la résurrection, n'a pas de sens. La vie, sans Jésus-Christ, la vie n'a pas de sens. Le chemin, sans Jésus-Christ, le chemin n'a pas de sens. N'ayez pas une vie chrétienne, du moins institutionnelle, avec des pensées sur ça, on va faire ça, on va faire ça. Tout est lié. Le ciel et la terre sont étroitement liés par une seule personne qu'on appelle Jésus-Christ. Et il n'y a rien, rien n'a été fait. Tout a été fait par lui, pour lui. Tout te tourne autour de Jésus-Christ. Ça ne tourne pas autour du christianisme. Tout est ciblé sur Christ. Alors, regardez maintenant notre Jaïrus. Un homme qui avait des pensées négatives sur Jésus. Un homme qui avait participé au conseil des anciens pour que mettre au dehors quiconque allait reconnaître Jésus-Christ comme sauveur, comme Messie. Et le voilà acculé devant un problème familial. Le voilà maintenant devant une situation très difficile. Il est lui-même lumière, mais il ne peut plus aider sa fille. Il est là, il regarde sa fille qui était en train de mourir. Alors c'est en ce moment-là qu'il s'est aperçu qu'il a commencé à changer d'opinion. malgré tout ce qu'il s'est fait comme opinion sur Jésus. Il a dit, il est un faux Messie, il n'est pas le vrai Messie, il a dit, c'est un trompeur. D'ailleurs, même lui, eux et les autres, les pharisiens ont dit, c'est Belzébul qui chasse les démons, qui guérit les malades. Ils avaient toute cette opinion-là. Mais ce jour-là, dans cette situation difficile, Jairus a commencé à changer de mentalité, a commencé à changer d'opinion sur la personne de Jésus. Et je crois, dans mon humble avis, ce n'est pas écrit, mais je crois que la femme de Jairus a été d'une aide précieuse. Et elle a dû dire, vous les hommes, vous êtes très orgueilleux. Vous savez que Jésus-Christ est le Messie. Mais à cause de votre orgueil, vous refusez que de le reconnaître. Mais si ma fille là meurt sans Jésus, tu auras problème. Quand une femme se met derrière vous, vaut mieux filer rapidement. Vous entendez? Ah oui, quand une femme se dresse et vous dit maintenant, tu auras chaud, vaut mieux. Alors, écoutez, frère, si ce n'était pas ainsi, le problème de la maladie de la fille et le langage de la femme ont amené Jairus et écoutez, un chef de la synagogue qui avait dit à tout le monde qui reconnaîtrait Jésus-Christ serait excommunié. Et toute la foule qui était avec Jésus-Christ, toute la foule a vu venir brusquement Jairus en pleine réunion. Tout le monde a commencé à se cacher. Il est venu pour prendre les noms des gens. Il est venu sûrement ce Jairus-là qui nous a dit que Jésus est un faux prophète, que Jésus est Belzébul, lui et les autres qui ont dit que de ne pas aller aux réunions de Jésus, il ne peut pas venir ici pour autre chose que de venir prendre les noms de ceux qui participent aux réunions de Jésus pour qu'on puisse les excommunier. Vous croyez que la foule a accueilli Jairus bien? Non! Mais au grand étonnement de la foule, frère, au grand étonnement de la foule, ils ont vu Jairus se mettre à genoux. Ça veut dire, tout juif sait que lorsqu'on se met à genoux devant quelqu'un, ça veut dire qu'on reconnaît que cette personne-là est une personne divine. Les juifs ne se mettent jamais à genoux devant ni un prophète, ni qui que ce soit, si ce n'est que devant le Seigneur Dieu. Et Jairus, en tant que chef de synagogue, en se prosternant, en adorant Jésus-Christ, il venait de passer de l'opinion fausse qu'il avait de Jésus-Christ. Maintenant, il a reconnu que Jésus-Christ est réellement le Messie. Il a reconnu qu'il est le Sauveur. Il a reconnu qu'il est le puissant qui fait des miracles. Il a reconnu que Dieu est en lui et que par lui, il peut guérir son enfant. Alors la question se pose ce soir, avez-vous changé d'opinion pendant cette semaine? Avez-vous reconnu pendant ce temps de prière, de jeûne, le Seigneur vous a-t-il visité pour vous convaincre que votre vie chrétienne, Jésus-Christ n'est pas une des personnalités religieuses. Jésus-Christ n'est pas un simple sauveur qui vous a sauvé un jour, mais il est votre vie présente. Il a dit, je vis et vous vivrez. Tout, actuellement, votre pouvoir, votre sainteté, il est votre sanctification, il est votre salut, il est votre rédemption, il est votre sagesse, il est votre tout en tout. Vous ne pouvez pas vous séparer de ce Seigneur-là. Donc, il est bon, frères et sœurs, d'ancrer ces choses au plus profond de votre être. Si vous voulez que réellement la deuxième étape devienne facile. Et quand Jairus a fait cela, alors quand il s'est humilié, il a changé de mentalité, il a changé de pensée concernant qui est Jésus-Christ. Alors, il a pu adresser une prière facile à Jésus-Christ. Maintenant, la foi est en lui. Et c'est pourquoi il a dit à Jésus, cette prière qu'il a faite, il dit, viens, je t'en supplie, viens imposer, ma fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Voilà la prière d'un homme qui est convaincu maintenant, il n'y a aucun problème. Il a déjà dit, viens imposer les mains, non seulement elle sera sauvée, elle va vivre. Il a déclaré, il croit de tout son cœur. Il n'a pas dit, si cela te plaît, il n'a pas dit, si tu le veux. Maintenant qu'il a reconnu Christ, il est sûr que le miracle se passera. Il a reconnu qu'il est non seulement le sauveur, il a reconnu aussi qu'il est le grand médecin, il a reconnu qu'il peut guérir les gens et il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui. Alors frères et sœurs, ce soir, quelle est cette première étape que vous devez franchir? Cette première étape est très importante parce que devant des situations comme cela, il n'y a plus de porte de sortie que Jésus-Christ. n'y a plus d'issue de secours. Rien d'autre. L'impasse est là, Christ est là devant vous. Alors, quand il a vaincu cela, la Bible dit, Jésus s'en alla avec lui. Jésus a dit, mon ami Jairus, nous allons aller maintenant sur le chemin du miracle. Nous allons prendre la deuxième étape. Nous allons partir pour aller dans ta maison, parce que je sais que lorsque je serai dans ta maison, il n'y aura plus de problème. Si vous êtes, cette première étape est très importante. Si vous avez enlevé les doutes de vos cœurs, si vous avez enlevé les mauvaises pensées de vous, si vous ne pensez pas que Dieu est un Dieu méchant, est un Dieu qui rabroue les gens, est un Dieu qui n'est pas bon, si vous êtes arrivé à fixer en vous la réalité, le vrai visage de Dieu en Christ, si vous arrivez à... les choses vous seront facilement possibles. Mais si vous doutez en vous, si vous pensez que Dieu aujourd'hui change, qu'il est capable de dire oui aujourd'hui, de dire demain non, voilà, vous avez un Dieu inconstant et vous n'aurez jamais confiance en lui. Donc la première chose d'abord, c'est de savoir, frères et sœurs, regardez la Bible, lisez la Bible, méditez la jour et nuit jusqu'à ce que la réalité de Christ vous soit donnée. C'est pourquoi Dieu a envoyé le Christ pour venir nous montrer le vrai visage du Père. Maintenant, ils sont en train de marcher. Deuxième obstacle, on le voit dans le texte. Quand ils ont commencé à s'en aller et à partir, une foule pressait Jésus. Or, la Bible dit qu'il y avait une femme atteinte de perte de sang. Au moment où le cortège partait vers la maison de Jairus, vers le lieu du miracle, le premier obstacle qui va se présenter, c'est que quelqu'un va arrêter Jésus en chemin. Quelle sera votre attitude? Et je voudrais dire à certains, et pendant cette semaine, ce que j'ai constaté les autres semaines, frères et sœurs, quand quelqu'un, vous voyez là, Jésus est en train de partir avec Jairus. Brusquement, une femme l'arrête. Mais quelle a été l'attitude de Jairus? Quelle est l'attitude que vous avez lorsque souvent vous partez vers un serviteur de Dieu et vous demandez à ce serviteur de Dieu de prier pour vous et brusquement quelqu'un d'autre apparaît et fait détourner ce serviteur de Dieu vers elle? Souvent, les gens sont frustrés. Pendant cette semaine, j'ai remarqué ça. Il y a un qui vient et dit, bon, je veux te voir. Au moment où vous parlez, quelqu'un vient se mettre entre vous deux. Et je vois tout de suite la réaction négative des gens. La même chose s'est passée avec Jairus. Ça, c'est Dieu vous exerce à la patience. Savoir attendre. Dès le moment où Jésus a commencé à marcher avec vous, pour aller chez vous, Jésus a dit qu'il s'en ira là-bas. Il va relever votre enfant. N'ayez pas peur. Exercez l'amour envers ceux qui pensent qu'ils ont plus besoin de Jésus plus urgemment que vous. Vous entendez? Parce qu'il y a des gens toujours qui pensent qu'ils ont une urgence supérieure à la vôtre. Mais oui, c'est ça. Cette femme est venue. Elle s'est interposée. Elle a fait arrêter le cortège. Mais Jairus, on ne voit pas Jairus en train de se plaindre. Il n'a pas dit à cette dame, oh, tu sais, madame, mon cas est plus urgent que le tien. Mon cas est plus urgent. Non, ne nous dérange pas. Non, il n'a pas dit cela. Jairus est resté dans la patience parce qu'il sait une chose. Dès le moment où Jésus a pris le chemin de sa maison, quoi qu'il advienne, le miracle aura lieu. Quoi qu'il advienne, Jésus n'est jamais allé quelque part et retourné bredouille. C'est cela que vous devez savoir. Mais en ce moment-là, c'est vous qui êtes testé sur le chemin du miracle. C'est pourquoi sur le chemin du miracle, de désert jusqu'à Canaan, il y a eu beaucoup de tests. Il y a eu d'abord les eaux de Mara. Les eaux de Mara ont arrêté Israël. Les simples eaux amères de Mara ont montré quelle est la foi des Israélites. Quelle était leur foi à l'égard de Moïse? Quelle était leur foi à l'égard de Dieu? À Mara, quand l'eau était amère, ils ont élevé la voix pour commencer à murmurer. Ils ont commencé à douter de Moïse et de Dieu. Ils ont commencé à dire que mais Moïse les a amenés dans le désert pour qu'ils meurent. Et déjà, cela montrait que ces hommes et ces femmes-là, s'ils n'y prenaient pas garde, ils n'allaient jamais arriver en Canaan. Ils n'allaient jamais arriver à Canaan, malgré la présence de la colonne de feu, parce que leur cœur n'adhéraient pas à la réalité de Dieu. Non pas que Dieu n'était pas capable de les amener en Canaan, mais leur cœur refusait de croire que Dieu était capable d'aller jusqu'au bout. Une simple eau amère les a tous arrêtés. Alors que c'est à cette eau amère que Dieu s'est révélé à eux, comme le grand médecin qui les guérit, en leur révélant son nom composé, Yahvé Rapha. Mais si vous regardez, depuis ce temps, depuis Exode 15, 26, Exode 15, jusque plus loin dans Nombre, 40 années sont passées, il n'y a que des murmures. Ils n'ont jamais pu reconnaître Dieu textuellement sur leur route. Ils ont tout le temps douté de lui. Parfois ça va bien, parfois c'est en haut, et à cause de cela, il n'y a que deux qui soient rentrés en Canaan. Sur la route de votre miracle, frères et sœurs, ce n'est pas Dieu qui est mis à l'épreuve, c'est votre foi, votre confiance, votre amour qui est mis à l'épreuve. Sur la route de votre foi, quand vous priez pour les gens, quand vous priez pour que votre mari soit converti, quand vous priez pour que vos enfants reviennent à Dieu, quand vous priez que Dieu agisse dans votre maison, votre foi sera testée et non pas Dieu. Dieu est le même, il ne change pas. Il n'y a aucune ombre de variation. Quand la femme est venue vers Jésus, quand la femme a touché le bord du vêtement de Jésus, Jésus n'a pas été offusqué. Jésus n'a pas été troublé, sauf qu'il a dit, une puissance est sortie de moi, qui m'a touché? Donc, sur le chemin de votre miracle, apprenez à être patient. Apprenez à exercer l'amour envers les autres qui viennent aussi vers Jésus, qui veulent chercher. Apprenez à aider les gens. Apprenez à être patient avec les gens, frères et sœurs. Plus vous serez patient, plus votre miracle peut même se passer rapidement pour vous, plus que les autres. Apprenez à aimer les gens. Ne les rabrouez pas. Ne dites pas que tu as pris ma place, frères et sœurs. Ah oui, mais moi, c'est moi, je parlais à l'homme de Dieu, tu es venu te mêler là-dedans, et moi, je n'aime pas ça. Non, ne faites pas cela. Si Dieu n'a pas changé, il ne sera pas en retard dans votre situation. Nous avançons. Donc, après la guérison de cette femme, Jésus a repris donc la marche vers la maison de Jaïrus. N'oublions pas, nous sommes en train d'aller à la maison du miracle. Troisième étape, troisième obstacle du moins, lisons, et au verset 35, comme Jésus parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Troisième obstacle sur la route du miracle. Je vous donne ce message très simple, mais qui est très important. Troisième obstacle, après avoir franchi l'obstacle de l'impatience, troisième obstacle, c'est l'obstacle des porteurs de mauvaises nouvelles qui vous diront, cette maladie que ton mari a, ma tante en est morte l'année passée. Ça a tué ma grand-mère et mon oncle. Cette maladie, oh mais oui, nous on sait, on connaît ça. Tu sais bien, hein, mon oncle est mort de ça. Ça veut dire que votre mari va quoi? Mourir de ça. Les porteurs de mauvaises nouvelles sont très nombreux parmi les chrétiens. Écoutez, ce que je vous dis, le monde chrétien est un monde un peu bizarre. C'est le monde qu'on devrait avoir une parole positive d'encouragement. Mais c'est le monde rarement les chrétiens aiment être positifs à l'égard des autres. Ils créent le doute dans votre cœur en permanence. Ils ont dit non, mais oh Jairus, ne te fatigue pas. Ton Jésus là, il est trop en retard. Hein? Ta fille est morte. On ne peut plus rien faire. C'est fini. Ta fille est morte. Jairus, n'importune pas le maître. Vous voyez, des gens qui ont des paroles négatives, des gens qui vous disent que vous ne vous en sortirez jamais, des gens qui vous disent que votre situation, elle est impossible, irréalisable. Mais Jésus était là. Le porteur de bonnes nouvelles était là. C'est vous qui devez choisir. Vous êtes l'arbitre. Les porteurs de mauvaises nouvelles sont arrivés. Et à votre droite, il y a le porteur de bonnes nouvelles, Jésus-Christ. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Qu'allez-vous choisir? Qu'allez-vous choisir, frères et sœurs? qu'allez-vous faire? C'est très important. Est-ce que vous allez écouter les porteurs de mauvaises nouvelles? Ce ne sont pas des gens qui sont de mauvaise foi. Ils sont sincères. Ils aiment la réalité. Ils ont dit, soyons réels, soyons rationnels, soyons raisonnables. Nous avons vu ta fille expirer. Nous l'avons vu mourir, Jairus. Sois rationnel. Nous l'avons vu. Ce ne sont pas des gens méchants. Ils ne sont pas méchants. Mais ils sont dirigés par leurs pensées. Ça, c'est très important que vous compreniez. Si vous ne comprenez pas cela, vous risquez d'enterrer vos miracles sur la route. Tout de suite, la foi de Jairus est descendue. Jésus a regardé le visage de Jairus. Il a vu son visage était décomposé. Jésus va donner une parole, une bonne nouvelle, pour remonter la foi de Jairus. Et il dit ceci à Jairus. Au moment où la mauvaise nouvelle a décomposé le visage de Jairus, Jésus se tourne vers lui, sans tenir compte de ses paroles. Sans tenir compte des paroles des porteurs de mauvaises nouvelles, Jésus dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Ne crains pas, crois seulement. Il y avait deux points de vue ici. Il y avait ceux qui étaient rationnels, scientifiques, et ils avaient raison, ils avaient des preuves. La fille est bel et bien morte. Il y avait Jésus-Christ de l'autre côté, qui est l'auteur de la vie et qui est la vie. C'était à Jairus de choisir à qui vers qui se tourner. La situation est importante dans votre situation, dans votre problème. Bien-aimés frères, la situation est importante. Je vous ai dit pour certains le dimanche matin, quand on a annoncé que ma fille a eu l'arrêt cardiaque et que les docteurs ont appelé le pasteur. Et il y a un docteur qui a l'autre jour vu mon beau-fils, mon gendre, et du moins il a vu le docteur qui s'est occupé du problème. Il a demandé au docteur, quand est-ce qu'on a ramené le corps de la fille du pasteur Mamadou au Burkina pour enterrer? Et l'autre docteur lui a dit, mais la fille du pasteur Mamadou est assise, elle est en train de s'occuper de sa fille, elle mange, elle boit. Il a fui, il a couru. Il dit qu'il ne croit pas, s'il ne voit pas. Alors j'ai téléphoné l'autre jour, j'ai dit à mon gendre d'amener ma fille chez ce docteur-là. Il l'a vu en chair et en os. Quand je suis arrivé, écoutez, je suis arrivé, comme Jairus, je suis arrivé, le professeur principal m'a dit qu'il soignait ma fille. Ils ont dit, bon, votre fille était morte, bon, on a pu la ramener à la vie, mais elle ne va pas dépasser un légume. C'est-à-dire, même si jamais elle vivait, elle ne pourra pas parler, elle ne pourra rien faire, elle ne pourra pas marcher. Mais je l'écoutais, il était arrêté là. Mais j'écoutais en même temps Jésus. J'écoutais Jésus. Elle me dit, mais monsieur, c'est comme si on me disait, c'est pas en Afrique ici. Hein. Ici, c'est la médecine de pointe. Nous sommes aux États-Unis. Ah, donc, non, mais c'est ça qu'on essaie de... On voulait que j'accepte. Ils ont dit, mais il faut débrancher. Maintenant qu'elle a pu respirer quelque temps, bon, le cerveau est atteint. Il y a le cerveau à faire des minutes et des minutes sans fonctionner. Mais j'étais là, j'écoutais le monsieur. Mais j'ai regardé ma fille avec d'autres yeux. Je la regardais. Je me tenais là. Je la regardais, frère. J'entendais. J'ai passé tous ces textes-là en revue. Quand j'étais en face d'elle et que les gens me disaient, ça ne marchait pas, je disais, crois seulement. J'entendais ça. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Oh, crois seulement. Je ne les chantais pas si fort que ça. Parce que si on les chante fort, ça veut dire qu'il n'y a rien. Quand je chantais, je ne chantais pas si fort que... Je ne chantais pas « Crois seulement ». Non, mais mon frère, je chantais « Crois seulement ». Je murmurais. Vous comprenez? les mauvaises nouvelles s'accumulaient. Des infirmières sont venues. On a été obligé de changer les infirmières. Deux infirmières, on les a changées. Une même a été renvoyée. Elle est venue dire non, elle ne vivra pas, non. Mais j'ai dit, mais écoutez là, vous êtes qui? Il dit, je suis son père. Je suis son père. Je n'ai pas quitté l'Afrique pour venir enterrer ma fille. J'ai quitté l'Afrique pour venir voir ma fille se lever et prendre son bébé et son mari. C'est fini. Je ne sais pas. Écoutez. Mais vous allez me dire, comme Jairus, mon cœur battait, mon cœur de père battait. Quand je disais ça, je n'étais pas là comme un homme, non, aux anges. Non. Mais je m'appuyais comme David. Le jour que David est venu à Siklak et qu'il est venu trouver qu'on a brûlé toute la ville de Siklak, on a emporté toute sa famille, les familles de ses héros, de ses soldats. Tout le monde s'est arrêté, tout le monde a commencé à pleurer. La Bible a dit que David et ses vaillants héros ont tellement pleuré qu'ils n'avaient plus de larmes pour pleurer. L'homme doit pleurer. Mais quand David a pleuré, c'est pas fini. Ces vaillants héros ont ramassé des cailloux. Les hommes que David a formés, des vagabonds, des voyous, des gens qui n'avaient aucune destinée, David les a formés. Sachez que ceux à qui vous avez fait du bien reprendront des cailloux un jour pour vouloir vous lapider. Ne attendez-vous à cela, frères et sœurs, si vous ne le savez pas. Des gens qui ont été formés par David ont ramassé les cailloux. Ils ont dit, tu nous as trompés, ton affaire de Dieu, ça ne marche pas. Et ils ont levé les cailloux. La Bible dit, en ce moment où David avait un problème personnel, où David était face à ses meilleurs amis qui allaient le lâcher, la Bible dit que David s'appuya sur l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est tout un message, c'est tout un séminaire. Cette phrase-là, David s'appuya sur l'Éternel, c'est tout un séminaire. Cela veut dire quoi? Comment on peut s'appuyer sur Dieu? Est-ce que Dieu était là-bas? Est-ce qu'il était un rocher? Est-ce que David s'est posé? Non? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vos meilleurs amis sont contre vous, quand ceux que vous avez élevés, vous avez baptisés dans l'eau, quand l'équipe, les anciens qui sont contre vous, qu'allez-vous faire? David s'est appuyé sur Dieu. C'est ça avec Jairus. Et c'est ça qui m'est arrivé. Tous ces passages-là, je les ai passés en tête devant le corps de ma fille. Tous ces passages-là, je les ai repassés en tête devant le tombeau de Lazare. La fille et le fils de la veuve de Naïn. Tout cela est arrivé. J'étais arrêté et je regardais. Mais j'entendais les voix de l'ennemi. J'entendais les voix des spécialistes. J'entendais toutes les voix des scientifiques qui disent il n'est pas possible que cette femme-là puisse même bouger. Déjà qu'elle sait, elle est sortie de la mort, c'est bien. Mais maintenant, elle ne pourra pas s'en sortir. Vous mettez tout débranché et qu'on l'enterre. Qu'allez-vous faire? Les deux voix étaient là. Mais la voix douce de Dieu était là aussi. Crois seulement. Crois seulement. Il y a une possibilité, il y a un miracle. Le Dieu des miracles est avec toi. Tu ne le sens pas? Je ne le sentais pas. Mais je savais qu'il était là. Comme Jairus, Jésus dit, crois seulement. Ne crains point. Crois seulement, Jairus. Et ils ont continué à avancer. Quand ils ont avancé, la Bible dit, Jésus ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Alors, quatrième obstacle, ce sont les pleureurs professionnels, les moqueurs et les autres, les incrédules. Vous savez, il est arrivé, dès qu'ils ont vu Jairus, ils ont augmenté l'amplificateur. Ils ne pleuraient pas avant, hein, mais dès qu'ils ont vu Jairus, oh, pauvre Jairus! Mais en réalité, souvent les gens pleurent dans les deuils, les gens pleurent pour eux-mêmes. Vous les voyez, ils pleurent là, ils sont en train de pleurer sur leurs propres problèmes. La preuve est que dès qu'ils quittent le lieu du deuil, 200 mètres plus tard, ils sont en train de dire, alors François, ça va, ma chérie? Ils sont en train de rire. Comment quelqu'un peut pleurer et en 2 minutes il est en train de rire? Jésus savait ça. Pour qu'il y ait le miracle, il faut qu'il y ait une atmosphère de miracle. L'atmosphère de miracle, qu'est-ce que c'est? Il y avait une foule de gens. Jésus avait 12 disciples. D'abord, Jésus a fait un tri parmi ses disciples. Il n'a pas amené les 12 disciples. Parce que les Thomas et les Judas ne peuvent pas rentrer là-bas. Ils ne vont jamais croire que la fille de Judas... Non, les Thomas et les Judas ne vont pas rentrer. Il a pris 3. Le bouillant Pierre, qui est tout le temps bouillant. Jean, l'apôtre de l'amour. Et son frère Jacques. Il les a amenés avec lui. Pour qu'il y ait un miracle dans votre vie, il faut qu'il y ait une atmosphère de miracle. L'atmosphère de miracle, ce sont des gens, des frères, des sœurs. Donc vous êtes sûr que ces hommes et ces femmes-là, malgré leurs faiblesses, quand ils vont prier avec foi. Ils ont confiance au Seigneur. Et il a fait sortir tous les parents, il a fait sortir tous les visiteurs, tous les amis. Il a laissé le père et la mère. Il sait bien que le père et la mère auront la foi pour la résurrection de leur fille. Donc, un petit groupe. Donc, il a décanté l'atmosphère. Il a enlevé de l'atmosphère l'incrédulité. Ne vous amusez pas à prier avec n'importe qui. Il y a des gens, vous demandez de venir prier, ils ne croient au miracle, rien. Vous dites, ah, frère, on va s'accorder maintenant. Dans leur cœur, j'ai dit, mais qui m'a amené ici? Pourquoi je prie à cet homme-là? Ils ont envie de fuir. Il n'y aura jamais de miracle. Donc, regardez avec qui vous marchez. La Bible dit ici, 2 personnes s'accordent sur la terre pour demander une chose à quelqu'un. Mais si vous accordez à quelqu'un qui n'est pas d'accord, comment aurez-vous le miracle? Donc, il faut développer une atmosphère. Un jour, on est parti prier pour quelqu'un qui est malade. On dit aux gens de prier. Il y a un monsieur qui est un ancien de leur église. On dit de prier. Il a commencé à prier. Il a commencé à parler d'Abraham, de Genèse. Continuez en passant par Exode, Nombre. Il était en train de faire le voyage pour arriver à la fin pour dire, Seigneur, tu vois cette femme-là qui est en train de mourir, garde son mari dans la paix maintenant. Mais oui, c'est ça. Il faut consoler son cœur. Console les cœurs des orphelins. Console. Il a commencé par Abraham, mais il a terminé par la mort. On l'a dit, c'est bon, c'est très bien, arrêtez-vous. Vaut mieux sortir un peu, c'est bon. Vaut mieux sortir, va faire les 100 pas. Il ne croit pas. Pour lui, la femme est morte. La femme est morte. Avec qui allez-vous pour prier? Qui appelez-vous pour prier quand vous êtes en difficulté? Avec qui vous associez-vous? Avec quel partenaire? La question est là. L'atmosphère de prière, l'atmosphère de miracle est une chose très importante. Regardez chaque fois Jésus, il avait une atmosphère tout le temps de foi, une atmosphère de miracle qu'il criait tout autour de lui. Et à cause de cela, il y avait des miracles. Mais regardez à Nazareth. À Nazareth, c'était une ville où l'atmosphère de foi n'existait pas. Jésus est arrivé avec toute sa puissance, avec le Saint-Esprit, avec le revêtement. Quand il est arrivé à Nazareth, tous les Nazaréens avaient déjà une idée arrêtée sur Jésus. La Bible dit qu'il ne put faire aucun miracle. On n'a pas dit que Jésus n'a pas voulu faire un miracle. Parce que quand on dit ça, certains s'opposent. On n'a pas dit, il ne put faire là aucun miracle et il était étonné. Ne dites pas ce que la Bible n'a pas dit. Il a dit, il ne put faire. Sinon que d'imposer les mains sur quelques malades et de les guérir. Et il était étonné de leur incrédulité. L'atmosphère d'incrédulité avait rempli la ville de Nazareth. Pas les gens ont dit, n'est-ce pas le fils de Joseph? N'est-ce pas le charpentier? N'est-ce pas le frère de Joseph? N'est-ce pas le frère de telle femme? Comment se fait-il que les miracles se fassent par sa mère? Il n'est pas possible. Il ne peut pas être dans cette catégorie de gens qui font des miracles. Ils ont refusé. L'atmosphère des miracles est très importante. Si vous voulez que soyez conscients ce soir-là, je vous dis ça pour vos maisons. Je dis ça pour vos familles. Parce que vous ne pourrez pas être tout le temps dans une église, demander à un pasteur de prier pour vous, frère. Vous êtes chrétien. Vous devez être, vous et votre femme, vous devez être là, vous et vos enfants, et exercer l'atmosphère de foi, l'atmosphère de miracle. Nous sommes ici dans cette semaine-là. Mais il faut un an pour qu'il y ait le prochain jeûne et prière. Mais pendant ces deux jeûnes et prières-là, chez vous, qu'est-ce que vous ferez? Quand vous êtes malade, vous allez venir ici tout le temps? Non. Le même Dieu qui a accompagné Jairus n'était même pas né de nouveau. Jairus était un ancien adversaire de Jésus qui, quand il s'est converti et il a changé sa mentalité, Jésus l'a accompagné. Jésus n'a pas besoin d'un grand homme pour guérir les gens. Jésus a besoin de votre petite foi. Jésus a besoin de... C'est ça le problème. Parce qu'on pense qu'il y a des gens seulement qui ont des dons et que les autres n'ont pas de dons. Frère, dans l'église où j'étais converti, je n'étais rien. Mais j'ai commencé à voir des miracles. Et j'étais étonné. Comment ce nouveau converti, il me dit, ah, tu as un don. Quel don j'ai? Je n'ai pas de don. Je crois que Jésus-Christ est vivant. Mais accordez-vous, vous et votre femme, accordez-vous. Accordez-vous, vous et vos enfants qui croient. Accordez-vous et commencez à prier. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre un grand homme de Dieu. Accordez-vous, maman, pour votre enfant qui doit passer tel concours, tel examen. Accordez-vous pour prier pour l'enfant. Accordez-vous pour une décision que votre mari doit prendre. Si vous savez que la Bible indique telle chose, accordez-vous et priez. Et vous allez voir que l'exaucement de la prière va augmenter votre foi, va affermir votre foi en Christ Jésus. Mais si vous attendez tout le temps que quelqu'un prie pour vous, votre foi ne sera jamais affermie. Par le jour que la personne ne sera pas disponible, vous allez commencer à attaquer la personne, à lui en vouloir, à avoir la haine, l'amertume envers la personne. Et la plupart des gens aujourd'hui ont ça. Ah, mais je suis allé, tel pasteur m'a rejeté. Si le pasteur t'a rejeté, est-ce que Jésus t'a rejeté? Est-ce que Jésus t'a rejeté? Alors, Jésus est avec vous. Le même Jésus qui est avec le pasteur est avec vous. Le même Jésus est avec vous. Pourquoi, frère, vous avez développé une théorie, je ne sais pas, une théorie du fait que le pasteur seul a le pouvoir? La Bible dit, Jésus a envoyé 70 disciples, 70 qui sont allés, sans être nés de nouveau, qui sont revenus, qui ont fait le compte-rendu à Jésus-Christ, et qui ont dit, nous sommes allés, les démons nous sont soumis en ton nom. Je vous ai dit ce que nous avons fait. On a vu nos jeunes qui ont prié pour des aveugles. Pas nous. On les a vus. Ils sont allés. Il faut développer cela dans votre cœur, frères et sœurs. C'est pourquoi ce soir, j'ai voulu m'arrêter un peu. Alors, Jésus est entré dans cette maison. Il a fait sortir tous les moqueurs. Il a assaini l'atmosphère. Et il a saisi la petite fille par la main. Et il a dit, Talita Kumi, ça veut dire, jeune fille, lève-toi. Et la jeune fille s'est levée. Donc, voici un chemin. Le chemin de Jairus est un des chemins qui a abouti au miracle. Le chemin de Canaan n'a pas abouti au miracle. Ils se sont trompés. Ils ont tous péri dans le désert. Le chemin d'Emmaüs a abouti à une révélation. Le chemin de Jéricho a amené Bartimée et ses amis à voir. Et vous êtes sur quel chemin ce soir? On va s'arrêter là, frère, et je vais prier. Vous, sur quel chemin êtes-vous ce soir? Vous qui nous suivez maintenant devant votre petit écran, sur quel chemin êtes-vous ce soir? Est-ce le chemin de l'incrédulité? Est-ce le chemin de la mauvaise opinion? Est-ce que le chemin du doute? Est-ce quel chemin vous êtes ce soir-là? Si vous réfléchissez sérieusement, parce que frère, la vie chrétienne, c'est ce qui se passe dans votre maison. Ce n'est pas ce qui se passe à l'église. Le succès de la vie chrétienne, c'est le succès que vous avez dans votre famille et au bureau. Ce n'est pas dans l'église. À l'église, il n'y a pas de succès. Ça, c'est le corps collectif de Christ qui est là. Et là où il y a l'union, il y a toujours la force. Là où il y a l'union, il y a la force. Mais quand vous allez retourner chez vous, que faites-vous? Que ferez-vous? Devant les problèmes, que ferez-vous? Vous allez trembler? Non, frère. Restez, Jésus est avec vous. Croyez seulement. Il a dit, ma fille, ne crains pas, crois seulement. Et ce soir-là, nous allons fermer nos Bibles, ceux qui avaient ouvert et ceux qui sont les internautes. Nous voulons que ce soir, vous puissiez vous préparer. Nous allons faire un temps de prière ce soir et afin que Dieu nous touche. Père, nous te remercions ce soir-là. Tu nous as parlé sur le chemin, notre miracle. Nous voulons vaincre tous les obstacles. Le premier obstacle qui est de ne pas avoir des doutes sur ce que tu es, qui tu es, et aussi l'obstacle de l'impatience, du manque d'amour. Nous voulons vaincre ces obstacles. L'obstacle des paroles négatives, la peur qui peut nous assaillir. Nous voulons aussi vaincre l'obstacle des moqueurs, de ceux qui ne croient pas au miracle, qui se moquent de nous, nous faisant passer pour des gens qui sont illuminés, des gens qui croient à des choses qui ne sont pas vraies. Partout où les hommes ou les femmes sont maintenant, qui sont en contact avec nous, Père, nous te prions ce soir que dans ta grâce, dans ton amour, tu veuilles nous visiter par ton esprit de guérison, ton esprit de libération, ton esprit qui nous libère ce soir. C'est pourquoi, bien-aimés frères en Christ, vous êtes venus dans ce lieu ce soir, vous avez un problème de sclérose en plaques qui a été découverte récemment. Et cela vous donne la peur. Si vous croyez que le Dieu des miracles n'a pas changé, si vous croyez que votre sclérose en plaques qui a été découverte tout récemment, vous croyez, et le médecin vous a dit, ça peut évoluer rapidement. Mais si vous croyez que Jésus vous connaît personnellement ce soir et qu'il m'a donné cette parole pour vous, maintenant même, je demande que vous levez votre main pour montrer que vous croyez ce soir. Je vais être précis avec vous, que vous croyez ce soir que Christ est capable et il veut ce soir poser sa main sur vous et vous délivrer. Je prie pour vous avec vous maintenant, afin que la grâce de Dieu vous touche. Excellent Père, je prie pour cette situation et je commande dans le nom de Christ Jésus que ce mal qui a été découvert, maintenant, que ta bonne main, que le Saint-Esprit opère dans ce corps et apporte la délivrance et la guérison. Merci ce soir pour cette grâce que tu fais maintenant pour notre bien-aimé au nom de Christ Jésus. Restons toujours là. Nous sommes dans une situation et le Seigneur m'a donné une parole ce soir. Il dit, vous êtes venu ici, une dame, vous avez une infection urinaire qui, malgré les médicaments que vous prenez, n'a pas l'air de repartir, d'être guérie. Et ce soir, cette infection urinaire-là, si vous posez votre main sur votre bas-ventre, ma sœur, je vais invoquer le nom du Seigneur pour vous maintenant. Vous posez votre main sur votre bas-ventre. Père excellent, excellent de grâce et d'amour, je viens contre cette infection urinaire qui trouble cette dame maintenant. Et je réprime au nom de Christ Jésus cette infection urinaire et que le Saint-Esprit exerce sa suprématie et fasse une opération, purifie, Seigneur, les voies urinaires de cette sœur et apporte la guérison par les meurtrissures de Christ Jésus. Recevez l'attouchement de la main du Seigneur ce soir et que la grâce de Dieu vous soit donnée. Vous êtes venus ce soir ici, vous entendez des paroles blasphématoires. Ça vient dans vos pensées, mais ça vient aussi dans vos oreilles. Des paroles blasphématoires qui vous font peur, qui vous troublent. Si vous croyez que le Seigneur est bon et que ce soir il veut vous libérer, vous pouvez vous tenir debout et vous posez vos deux mains sur vos oreilles maintenant, comme un symbole de vos oreilles spirituelles, pour que ce soir le Seigneur vous libère de ces paroles blasphématoires, de ces voix blasphématoires. Vous tenez debout et vous posez vos deux mains sur vos oreilles maintenant. Et je vais prier avec vous ce soir. Parce que le Seigneur a dit que parce que vous entendez ces paroles-là et cela vous trouble. Voici, dans le nom de Christ Jésus, je réprime maintenant ces voix blasphématoires, cet esprit de confusion, cet esprit impur qui tourmente. Et je commande dans l'autorité du nom de Christ Jésus que vos oreilles, à partir de maintenant, par la puissance du sang de Christ Jésus, vos oreilles spirituelles et vos oreilles naturelles soient fermées à ces voix blasphématoires. Et dans le nom de Christ Jésus, je repousse maintenant cet esprit qui vient vous tourmenter. Et je dis, esprit, tu lâches prise sur ces pensées et sur ces oreilles. Maintenant que le sang de Christ sanctifie vos oreilles et que vos oreilles soient fermées à ces voix blasphématoires. Rendez grâce au Seigneur ce soir. Il y a ici quelqu'un qui est venu avec une arthrose dégénérative. Une arthrose dégénérative. Quand je priais, le Seigneur m'a dit, c'est une arthrose qui est en train de s'amplifier et qui va vers la chaise roulante. Maintenant, si vous croyez que le Seigneur vous connaît et il m'a donné cette image de vous ce soir, vous pouvez lever votre main et je vais prier pour vous maintenant. Une main gauche et vous posez la main droite sur votre corps maintenant. Que vous soyez maintenant internaute, que vous soyez ici, croyez cette parole-là. Le Seigneur ne parle pas en vain. Si votre arthrose est dégénérative et qu'elle va aboutir à une chaise roulante, il vaut mieux ce soir que le processus soit arrêté par le Seigneur. Maintenant, je prie dans le nom de Christ Jésus. Frères, soyons concentrés, les autres frères et sœurs, prions en langue. Ce n'est pas la peine de regarder sur mon visage, rien n'est écrit sur mon visage. Oui, ferme tes yeux et sois concentré. Frère, c'est terrible quand on prie que les gens regardent, c'est pas du cinéma. Père, c'est sérieux. Père, je prie ce soir, dans le nom de Christ Jésus, contre cette arthrose dégénérative qui fatigue ce corps, je réprime cela. Tu sais quelle est la peur qui tient cette sœur et en particulier ce frère dans ce domaine-là. Tu sais que la peur a saisi. Ils se voient déjà dans des chaises roulantes, incapables de faire leur travail. Père, dans le nom de Christ Jésus, ce soir, je réprime cette arthrose dégénérative et je commande que cette arthrose-là parte maintenant, que vos ligaments, vos jointures soient libérées, votre épaule soit libérée, vos genoux soient libérés, votre cou soit libéré. Je commande à l'arthrose de libérer votre corps dans le nom de Christ Jésus. Vous êtes ce soir ici aussi, une autre personne, vous avez une baisse brusque de la vision, de votre vision, et ça a commencé de façon brusque. Votre vision a baissé brusquement, et cela vous inquiète. Posez votre main sur vos yeux maintenant. Nous allons prier pour vous. Posez votre main sur vos yeux, et nous allons prier pour vous, pour que Dieu restaure votre vision ce soir. Père, je prie au nom de Christ Jésus. Je réprime maintenant cet esprit de cécité qui veut emmener ses frères et cette sœur-là dans la cécité. Je réprime cela ce soir dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Et je commande que maintenant cet esprit de cécité cesse son action sur cette vision, ses yeux, et que ses yeux soient restaurés. Que les nerfs optiques soient restaurés, que la pression parte et que la vision soit restaurée maintenant. Et enlevez votre main au nom de Christ Jésus. Regardez votre Bible et regardez loin. Père, merci parce que tu as restauré ses yeux, cette vision maintenant, dans le nom de Christ Jésus. Rendez grâce au Seigneur. Nous n'avons pas fini, frères et sœurs. Dans la prière ce matin, le Seigneur m'a dit que vous êtes venus ici ce matin. Vous êtes au niveau du diabète 2, c'est-à-dire que la complication du diabète, vos reins sont touchés et votre cœur est touché. Et ce diabète est en train de faire un ravage dans votre corps. Donc, si vous croyez que ce soir, le Seigneur m'a parlé de vous de façon claire, avec ce diabète-là qui est en train de détruire non seulement vos reins, vos cœurs, maintenant, croyez et posez votre main sur votre corps et levez une main maintenant et soyez d'accord avec moi ce soir. Nous allons supplier le Seigneur ce soir pour qu'il touche votre corps et que ce diabète soit enrayé par la puissance du Saint-Esprit. Excellent Père de grâce, je prie maintenant et je réprime maintenant ce diabète qui ronge ce corps et qui a déjà amené, qui a affecté les reins, qui a affecté le cœur, Père, et qui a amené une hypertension. Je réprime maintenant cet esprit qui oppresse ce corps en amenant le mauvais fonctionnement du pancréas. Au nom de Christ Jésus, je réprime maintenant cet esprit et je commande ce soir que ce pancréas fonctionne parfaitement, que réellement le taux de sucre soit totalement baissé et que la puissance de Christ régénère non seulement les reins, mais aussi la circulation sanguine. Que au nom de Christ Jésus, le Seigneur vous touche ce soir et vous guérisse et vous apporte la guérison ce soir au nom de Christ Jésus. Et maintenant, les autres malades qui sont là, dont les noms n'ont pas été cités, parce que Dieu m'a pas donné tous les noms. Alors ce soir, vous pouvez vous tenir debout, on va prier avec vous. Croyez sur le chemin de votre miracle. Ce soir peut être un jour décisif pour vous. Ça peut être un jour décisif pour vous. C'est un problème de cancer. On a au moins beaucoup de personnes ce matin par l'onction d'huile. Donc vous devez déjà croire depuis le matin que vous êtes guéri. Mais ceux qui n'étaient pas là ce matin, vous tenez debout. Et si vous êtes malade, vous posez votre main la partie où vous êtes malade maintenant. Et nous allons prier pour terminer ce soir. Nous allons prier pour terminer ce soir. Et vous qui nous suivez maintenant au niveau de l'Internet, vous aussi, le Seigneur peut vous toucher et vous guérir ce soir. Père, je prie maintenant pour ces hommes et ces femmes. Tu vois l'esprit de maladie qui oppresse ces corps. C'est dans le nom de Christ Jésus ce soir que je m'avance dans l'autorité, dans l'assurance que à la croix du calvaire, non seulement tu as pris nos péchés, mais tu as aussi porté nos maladies et que par tes meurtrissures nous sommes guéris. C'est pourquoi ce soir, ceux qui sont en contact avec nous, ici personnellement ou les internautes, je prie ce soir contre tout esprit d'infirmité affectant leur corps, affectant les organes principaux, affectant leur peau, toute forme d'allergie, affectant leur sang, affectant leurs yeux, leurs oreilles, affectant, Seigneur, leurs gencives. Comme je vois cette gencive maintenant, inférieure, ma sœur, elle est en train de tomber, et vos dents sont complètement déchaussées. Maintenant, Père, touche cette gencive-là et que ses dents reprennent leur position au nom de Christ Jésus. Père, que la puissance du Saint-Esprit, au nom de Christ Jésus, touche ces corps de ces hommes et ces femmes. Recevez maintenant par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Christ Jésus, la guérison dans votre corps. Recevez la puissance de guérison dans votre corps maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Que toute tumeur parte et que vous recevez la guérison ce soir. Sois béni et sois loué, Père. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Alors, avant de laisser le micro à Samuel, je voudrais ce soir, vous qui êtes venus parmi nous, ce soir, vous n'avez pas encore fait le pas. Le premier miracle, le miracle des miracles, c'est le miracle de la nouvelle naissance. C'est le plus grand des miracles. Quand un homme naît dans le péché, a un cœur régénéré, a un cœur nouveau. Tout commence par là. C'est le premier pas de tous les miracles. Je ne parle pas d'une conversion dans une religion. Je ne parle pas de changement de religion. Je parle de la nouvelle naissance, de la nouvelle création. Si vous êtes parmi nous ce soir et vous étiez là depuis hier ou avant-hier, vous n'avez pas encore pris la décision, le Seigneur vous donne l'occasion ce soir. Il dit que quiconque vient à moi, je ne le rejetterai pas. Par mon sang, je vous ai réconcilié avec le Père. J'ai pris vos péchés. Et ce soir, je vais vous donner en particulier, dit le Seigneur, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Je veux que mon esprit habite en vous et que vous naissiez de nouveau. C'est ça le grand miracle que j'ai expérimenté il y a 34 ans à Toulouse quand j'étais étudiant. J'étais assis aussi dans une salle où on prêchait l'évangile. Quand le pasteur a prêché des nouvelles naissances, je ne comprenais pas grand-chose. Mais quand il m'a dit que Jésus pardonne les péchés, il ôte les péchés, il change le cœur, il donne un nouveau cœur, il a dit, mais si vous êtes là, vous voulez recevoir ce Jésus, en vous repentant de vos péchés, je me suis levé d'un seul coup. J'ai dit, mais cet homme-là, c'est ce que j'ai tout le temps désiré. Si je veux avoir un cœur nouveau. Et je n'ai pas changé de religion, c'est pourquoi je m'appelle Mamadou. Mamadou veut dire Mohamed simplement. Ce n'est pas le changement de nom, ça ne fait rien. Mohamed veut dire glorifié. Donc Mamadou veut dire glorifié. Est-ce qu'il y a un problème dans ça? Ce n'est pas changement de nom, c'est changement de vie. C'est changement de cœur. Vous comprenez? Alors, s'il y a des gens parmi nous ce soir qui n'ont pas fait ce pas-là, et vous qui nous suivez sur vos ordinateurs, vous êtes concernés aussi. Ceux qui sont ici, qui n'ont pas fait ce pas, qui veulent faire ce pas ce soir, que vous soyez jeune fille, étudiant, élève, collégien ou ancien, vous pouvez simplement vous tenir debout, on va prier avec vous. N'ayez pas peur et n'ayez pas honte. Tenez-vous debout et on va prier avec vous. Nous attendons. Tenez-vous debout. Voici, voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, voilà. Des coups se lèvent, oui, merci. D'autres personnes là? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ce soir? Voilà. D'autres personnes. Oui, merci. Donc, oui, plusieurs personnes se sont levées. C'est très important. Merci. Et, écoutez, ce n'est pas un changement de religion que je vous propose. C'est un changement de vie. Dieu a changé la vie de Zachée. Il a changé la vie de la femme adultère. Il a changé la vie de Paul, le violent. Et il lui a donné une vie nouvelle, ce qu'on appelle la vie éternelle. Posez votre main sur votre poitrine alors, vous qui êtes debout, et dites avec moi, Seigneur Jésus. Dites avec moi en français, oui c'est ça, pas en autre langue. Seigneur Jésus, je te remercie ce soir de m'avoir révélé que le plus grand des miracles, c'est la nouvelle naissance. Je veux expérimenter ce miracle. Et les conditions de ce miracle sont que je me repens maintenant de mes péchés. Je suis né dans le péché. J'ai grandi dans le péché. Et je me suis rebellé contre toi. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que tu es le Sauveur, l'agneau de Dieu qui ôte mes péchés. Ce soir, je te reçois dans mon cœur comme celui qui pardonne, qui enlève mes iniquités, qui me sauve, et je te confesse ce soir comme Seigneur de ma vie. Maintenant, par ton Saint-Esprit, je reçois de toi un cœur nouveau, un esprit nouveau, et ton Saint-Esprit viens habiter en moi pour faire de moi un enfant de Dieu, né par la puissance de Dieu. La semence divine est en moi. Je te remercie pour cette vie nouvelle, pour cette grâce que tu m'as donnée ce soir. Merci, car je suis né dans la famille divine. Dieu est mon Père. Je crois cela ce soir et je t'en remercie pour cette grâce que tu m'as faite, au nom de Jésus, amen. Ne priez plus, restez debout. Père, je te rends grâce pour ces hommes et ces femmes, car nous savons que dans la maison, dans le royaume des cieux, parmi les anges, il y a la joie pour ces hommes et ces femmes qui ont été accueillis dans la maison du Seigneur, qui ont été accueillis dans le royaume de Dieu. Père, tu as inscrit leur nom dans le livre de vie, nous te prions que leurs frères apprennent à les garder, que tu puisses les enseigner dans l'église où ils seront. Que ta grâce soit sur eux et que toi-même tu les conduises, Père. Sois béni et sois loué pour tout ce que tu as fait dans leur vie. Au nom de Christ Jésus. Amen. Acclamons-les. Voilà. Je crois qu'on va laisser la place à qui de droit? C'est le pasteur de l'église, le pasteur Samuel. Que Dieu vous bénisse.
Enseignement.com.
Enseignement.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignement.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignement.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.